Vous écoutez l'épisode 45 du podcast Les Petits Plus Zen. Bienvenue, on va parler aujourd'hui des bêtises et des punitions. Je suis Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après avoir été enseignante en maternelle Ré+ pendant 22 ans. Et maintenant, j'ai à cœur de vous transmettre mes outils comme l'arc-en-ciel des besoins, la cheminée des émotions, le tequil et tous les autres pour vous apaiser la vie de famille, peut-être libérer les émotions, retrouver du temps pour vous et pour ceux qui comptent vraiment et vivre une meilleure vie de famille apaisée au cœur du bien-être de chacun, les petits et les grands. Dans ce thème aujourd'hui des bêtises et des punitions, j'ai envie d'aller un peu plus loin que dans l'épisode 42 où on parlait des caprices. Si vous avez écouté l'épisode 42, on disait que le caprice, la perception d'un caprice, c'était la différence entre ce qu'on voit d'un comportement de l'enfant et ce qu'on traduit dans notre tête, comme quoi il nous cherche, comme quoi il ne veut pas nous obéir, comme quoi il nous provoque, comme quoi c'est vraiment volontaire de sa part. Donc pour débuter peut-être cet épisode, je vous propose de commencer par une réécoute de l'épisode 42. Et si c'est assez frais dans vos têtes, on enchaîne sur la notion de bêtise et sur la notion de punition. Que ce soit en classe ou à la maison, aucun adulte n'a échappé à cette notion de bêtise, à cette notion de punition. Je pense que nous, en tant qu'enfants, on l'a beaucoup entendu et que peut-être si vous faites un métier dans le domaine justement de l'accompagnement, du social ou si vous travaillez au contact d'enfants, il y a forcément autour de vous où vous avez été aussi vous-même à l'époque en train d'utiliser les mots bêtise et les mots punition. Ce sont des mots que j'ai utilisés pendant une vingtaine d'années. Ce sont des mots qui sortent encore de ma bouche de temps en temps. Parce qu'ils sont tellement présents. Ils sont présents dans tous les livres, ils sont présents dans tous les sites, dans toutes les notions et conférences autour des enfants. Donc il est temps aujourd'hui de lancer un grand pavé dans la mare, de la même manière que je vous disais qu'un caprice n'existe pas. En réalité, une bêtise n'est pas réelle. Une bêtise est quand même liée à notre perception de ce qu'on croit de l'enfant. Et la notion de punition, elle vient évidemment d'un archétype patriarcal et vraiment par habitude. Dans la société, c'est encore le cas, dans le système judiciaire. Une action qui a des mauvaises conséquences doit être punie. Une action qui a de mauvaises conséquences, que ce soit sur un humain, sur une société, sur une loi, doit être réprimandée. Et donc la notion de punition est autour de nous, quoi qu'on en dise. Et c'est peut-être la version enfant et peut-être l'adaptation au monde scolaire et au monde familial qu'on va travailler aujourd'hui. On ne va pas refaire le monde sur la politique et la justice. On va essayer de voir juste dans notre choix de mots et dans notre manière d'accompagner le comportement de l'enfant, ce qu'on pourrait faire évoluer et ce qui est à notre portée, nous, de nous à nous, de nous à nos enfants, de nous à nos élèves. On va commencer très tranquillement, on va commencer très petit. On ne va pas changer le monde en un épisode de podcast, mais j'ai envie de vous amener dans les différents types de prise de conscience que j'ai eues ces 6 dernières années par rapport aux bêtises et par rapport aux punitions. Donc un premier point, c'est notre intervention quand on se rend compte que l'action qui a été posée, que l'acte qui a été posé ou que le résultat, parce que des fois l'enfant n'est plus là, mais on constate le résultat, remplissez les petits pointillés là avec la dernière bêtise de vos enfants. On va commencer par qu'est-ce qui s'est passé? Cette question de qu'est-ce qui s'est passé, elle est très neutre, elle est très observable, elle essaye de revenir à un monde réel et non pollué par une flamme de colère ou non pollué par une flamme de frustration, de stress, à la fois du parent mais à la fois de l'enfant, qui la plupart du temps se doute bien que ça va se gâter, parce qu'il a peut-être même vu à quel point il avait transgressé la règle ou la limite. Je vous renvoie pour toutes les règles et les limites et à comment on installe une règle et une limite à l'épisode 22. Mais là, on va s'intéresser à ce qui se passe dans la tête de l'enfant quand on arrive et qu'on voit le résultat de son action, le résultat de sa bêtise. Donc partons sur un « qu'est-ce qu'il s'est passé ?» suivant l'âge de l'enfant, il va pouvoir faire une phrase plus ou moins compréhensible, plus ou moins cohérente, et il va aussi regarder sur notre tête ce qu'il croit qu'on attend de lui comme réponse. Et je vous invite à observer ça la prochaine fois que vous voyez des gens se disputer dans un parc ou au restaurant et tout ça. L'enfant regarde systématiquement la tête du parent pour voir ce qu'il est prêt à dire comme réponse et ce qu'il est prêt à entendre comme réponse. C'est vraiment très flagrant en classe, c'est phénoménal de voir à chaque fois un enfant dans la cour, un enfant qui est en train de se faire gronder, à quel point il adapte sa réponse à la tête qu'il voit du parent. Ça veut dire que s'il voit l'adulte déjà hors de lui, s'il voit l'adulte déjà à la limite de l'implosion, de l'explosion, de la violence, il va adapter son discours, soit pour éviter, donc pour en quelque sorte fuir ce qu'il sent venir, genre la tape, la gifle ou vraiment le hurlement, ou alors il va adapter son discours, au contraire, pour aller jusqu'à créer ce contact, pour aller jusqu'à créer cette action irréversible en quelque sorte. Donc, ce premier point, d'essayer au maximum de redescendre nous avant de lui dire qu'est-ce qu'il s'est passé, on va observer ensemble les conséquences, on va observer ensemble l'origine de l'action et retracer un petit peu le chemin de pour en arriver là, qu'est-ce qu'il s'est passé, un peu comme la justice le fait dans une affaire criminelle. Mais la différence, c'est que l'enfant et nous, on va se mettre du même côté pour observer là la situation. On va se mettre du même côté et on ne va pas chercher un coupable. La notion entre culpabilité et responsabilité, elle est parfois un petit peu subtile. Donc je vais vous inviter à réfléchir à quand on arrive et qu'on dit à l'enfant « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Tout de suite, on lui met l'étiquette du coupable. Alors que si on arrive et qu'on lui dit « Mais est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé ?» On se met du même côté que lui et on essaye de trouver la responsabilité, certes, est peut-être engagée parce que à ce moment-là, c'est peut-être vraiment lui qui a poussé la petite fille qui est tombée dans la boue. Peut-être qu'il l'a fait, l'acte. Mais on ne va pas partir dans la conversation par « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Donc, il y a une action qui a été faite qui n'est pas forcément une faute, qui n'est pas forcément intentionnelle. Il y a plein de raisons pour lesquelles il aurait pu renverser cette carafe, pousser cette petite fille ou casser votre vase. Bon, on en reste encore à des trucs dans la maison, mais remplacé par la dernière bêtise que votre enfant a faite, il l'a certes fait, l'action a été posée, l'action a été réalisée, mais l'intention et la faute n'est pas prouvée. Et il est difficile, avec un enfant, d'être sûr de son intention initiale. Bien souvent, on est troublé par nous, notre colère et nous, notre flamme. Et on en a parlé pas mal dans l'épisode 42, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, premier point, on va reconnaître ce qui s'est passé pour ensuite voir comment agir, comment peut-être réparer l'objet, si c'est possible, ou rétablir l'équilibre dans la relation avec la petite fille qui est tombée dans la boue, ou résoudre le problème du vase. Bon, là, le vase, s'il est cassé, il y a moins de chances qu'on puisse le réparer, mais trouver une solution alternative, trouver peut-être un compromis. Mais avant de partir directement sur la solution ou sur le compromis, il faut vraiment revenir à est-ce qu'on pourrait trouver ensemble l'enchaînement des faits et ensuite on s'occupera des conséquences de l'acte. Et sur les conséquences de l'acte, on va mettre beaucoup de dialogue avant d'agir en réparation ou avant d'agir en réconciliation si c'est une grosse dispute ou s'il y a eu violence. Donc on va d'abord essayer de comprendre. Nous, en tant qu'adultes, au lieu de tout de suite l'accuser, au lieu de tout de suite lui demander de s'excuser, la priorité n'est peut-être pas de lui demander de s'excuser, La priorité est peut-être de comprendre ce qui l'a amené à croire que c'était la meilleure solution pour lui de faire ce qu'il a fait. Et le cheminement est très différent. C'est un peu plus long, ça demande peut-être un peu plus de pratique, mais si on arrive et qu'on dit à l'enfant « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Ça suffit, tu dis tout de suite pardon », on court-circuite la réflexion autour de la responsabilité de ses actes. On court-circuite son potentiel de prendre conscience que son action a eu des conséquences, que les conséquences sont peut-être difficiles pour l'autre personne. Si c'est la petite fille qui est dans la boue avec sa belle robe, ben ça va pas se résoudre en recollant le vase. Hein. C'est vraiment deux notions différentes de réparation. Mais en nous plaçant, nous, en tant qu'accusateurs, on ne lui permet pas de faire ce chemin intérieur de « Est-ce que tu peux prendre conscience que quand tu as poussé la petite fille, elle est tombée, elle s'est peut-être fait mal, sa robe est sale, ses yeux sont tristes, elle a des larmes qui coulent. » On fait une suite de constats, on fait une suite d'observations factuelles. On ne met pas de jugement dans ces observations-là. La petite fille est tombée, la robe est sale, il y a des larmes sur ses joues, elle pleure. Tout ça, c'est factuel, mais on ne lui dit pas « c'est ta faute si elle pleure ». On ne lui dit pas « c'est ta faute si elle est tombée ». On lui remet la responsabilité de « je crois que tu as poussé la petite fille ». Donc, la nuance est difficile et au-delà des mots, parce qu'on peut choisir un mot plutôt qu'un autre, au-delà des mots, c'est surtout notre façon de poser notre voix, notre intonation et notre présence physique. Hein. On va au-delà dans le non-verbal, parce que quand on arrive, sourcils froncés, sur un enfant, il sent déjà que ça va se gâter, on ne lui permet plus la même action que si on arrive vers lui en disant « Bon, est-ce qu'on peut discuter ensemble de ce que j'ai vu ? Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé réellement ?» Donc notre calme va augurer d'une possibilité de s'en sortir différemment dans la situation. On ne lui demande pas tout de suite de se réconcilier, on ne lui demande pas tout de suite de réparer, on ne lui demande pas tout de suite de dire pardon. Ça viendra plus tard, quand on aura désossé la situation. De la même façon, punir, de la même façon, installer une punition au coin ou une tape ou tout ça. Tout cet ensemble de violences éducatives ordinaires, hein, vous l'entendez beaucoup dans les podcasts, dans les blogs, dans les programmes. Elle est liée à un passé, elle est liée à une habitude d'élever les enfants comme ça, une sorte de domination, de soumission. Ces actions sont là, on les a vécues peut-être enfant, on les a entendues autour de nous. Elles viennent sans qu'on y réfléchisse, elles sont presque automatique, donc c'est triste à constater, mais on va aussi le constater de manière factuelle. On a ce réflexe-là, parfois, de vouloir punir, dominer, soumettre, au lieu de chercher à réparer. Donc on ne va pas mettre un couvercle là-dessus, on l'a tous vécu à un moment donné, on a tous à un moment donné donné une claque, ou tapé, ou mis une fessée, ou hurlé, ou claqué une porte, on a tous eu des actes dans notre parcours d'éducateur, de maîtresse ou de parent dont on n'est pas fier. On peut faire un petit point là en disant « à ce moment-là, j'ai pas su faire mieux. À ce moment-là, j'ai cru que c'était la meilleure stratégie. C'est sans doute maladroit. J'aurais peut-être pu faire autrement, mais à l'époque, je n'avais pas les outils. » Et ces outils, on va les construire ensemble. Ces outils, ils existent. Ils existent dans les livres, dans les programmes. Ils ne sont pas faciles à appliquer. Mais un autre chemin est vraiment possible. Au lieu de punir, au lieu de crier, au lieu de taper, c'est possible de s'en sortir autrement. Et on va le travailler ensemble. Ça va être en lien avec cette notion de cause-conséquence. Ça va être en lien aussi dans la notion de confiance avec l'adulte qui parle de l'acte. S'il a peur de nous quand on lui dit « qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» comme si on l'accusait directement, il va pouvoir mentir, il va pouvoir essayer de dire « c'est pas moi », il va pouvoir se dégager de la responsabilité parce qu'il a peur en fait des conséquences de son aveu, il a peur en fait des conséquences qu'on va donner sur son acte, alors que peut-être qu'il se rend déjà compte à quel point c'était une bêtise, mais il nous voit dans une telle énergie de punition, dans une telle énergie de domination, qu'il n'a pas envie de nous faire de la peine quelque part, et la prochaine fois qu'il fera une bêtise, il aura peut-être encore moins envie de chercher de l'aide et encore moins envie de se confier. Donc à chaque résolution de conflit, à chaque problème, à chaque bêtise, avant de punir, qui est un réflexe naturel, hein, je le redis, on a parfois l'impression qu'il n'y a que la punition qui va lui servir d'exemple, je vous invite à déconstruire l'idée qu'on va d'abord punir, d'abord lui faire dire pardon, d'abord lui dire de s'excuser. En premier, je mets la compréhension de ce qu'il s'est passé, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu, et de lui demander à quel moment ce choix lui est apparu comme le meilleur. Est-ce que c'est vraiment un geste maladroit? Est-ce qu'il n'a pas regardé devant lui? Est-ce qu'il était de dos? Est-ce que on ne lui cherche pas des excuses, on lui cherche à prendre conscience qu'il y aurait peut-être eu à ce moment-là d'autres façons d'agir, d'autres solutions, plutôt que l'acte qu'il a posé, l'action qu'il a faite. Et ça est rassurant pour lui, ça lui enlève une grosse charge de se dire « la prochaine fois, je pourrais faire autrement, la prochaine fois, je pourrais éviter ce problème, la prochaine fois, je serai encore plus responsable de mes actions parce que maintenant, j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres voies. » Alors que s'il s'en prend une, s'il se fait hurler dessus, s'il se fait punir, s'il se fait confisquer son téléphone, etc., toutes les punitions entre guillemets classiques, ben, je ne sais pas s'il va retenir la leçon plutôt que la frustration. S'il va retenir l'espoir de faire autrement la prochaine fois plutôt que le ressentiment et la colère contre celui qui l'a puni. Donc il ne s'agit pas de ne pas punir pour être aimé de son enfant ou de son élève. Parce que c'est une dérive que j'ai aussi parfois observée chez les parents qui n'osaient pas affirmer que c'était mal ce qu'il a fait, que les conséquences étaient dangereuses, qu'il y avait eu un comportement inacceptable ou inapproprié. À un moment, il faut quand même poser les mots avec son enfant pour qu'il sache quel est le cadre de référence, quelle est la règle initiale, quelle est la limite. Donc, voir dans l'épisode 22 comment on fait tout ça. Et ces parents, papa et maman qui ne voulaient plus crier ou punir, ont une démarche compatible avec celle de la réparation, du compromis, mais il faut quand même mettre les mains dans la discussion. Il faut y aller quand même. On n'évite pas le problème en se taisant, sans punir. Il faut quand même agir pour éviter la prochaine fois que ça se reproduise. Donc il ne s'agit pas d'arrêter toute discussion pour éviter les punitions, il s'agit de comprendre comment le mécanisme s'est mis en place, comment la conséquence est arrivée, pour que la prochaine fois, dans une situation analogue, l'enfant ait d'autres options et qu'il puisse seul s'en sortir sans avoir peur d'une punition. Et quand ils sont petits, on trouve plein d'exemples vraiment à leur hauteur, et quand ils sont grands, les conséquences sont encore plus dangereuses. Si on imagine un ado qui se soit fait prendre la première fois en train de boire, si on lui hurle dessus, si on le punit, si on le prive de son téléphone, si on lui en colle une, mais la prochaine fois qu'il va boire, il se cachera encore plus. Ou il ira vraiment à la confrontation et à la frustration. Parce qu'il se dit, bah, de toute façon, on ne m'écoute pas dans mes besoins. Est-ce que peut-être j'ai bu parce que je me sentais plus proche d'eux, je me sentais mieux dans mon estime de moi? Enfin, le comportement de boire à ce moment-là a nourri un de ses besoins. L'envie de boire à ce moment-là était légitime. Et la violence du parent ou de l'accompagnateur a réprimé la légitimité de son acte, a réprimé l'envie qu'il a eue de faire ce choix-là. Il a fait ce choix-là. Ce n'est pas réversible. Il a fait ce choix-là à ce moment-là. Il vaudrait mieux comprendre pourquoi il l'a fait pour que la prochaine fois, il puisse changer de choix et d'option. Donc, qu'on soit dans une perspective avec nos ados ou avec nos tout-petits, l'idée est la même. Je commence par comprendre comment il en est arrivé à faire ce geste, quel besoin était à nourrir à ce moment-là, est-ce qu'il était sous le feu d'une flamme de cheminée, est-ce qu'il aurait eu d'autres possibilités sur son éventail de stratégies, et comment l'amener à voir qu'il y a d'autres façons de faire. Et ensuite, on s'occupe de, bon, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer, pour adoucir, pour réconcilier. Mais une fois que le travail d'enquête est fait, on peut s'occuper du compromis, on peut s'occuper de la personne qui est encore dans la boue et tout ça. Donc ça se fait parfois en parallèle parce qu'en cours de récréation, on ne peut pas faire tout ça avec tous les enfants qui ont un petit couac, une bagarre ou un défi personnel intérieur. Mais dans l'absolu, je vous conseille de vraiment verbaliser, expliciter beaucoup avant d'aller sur le terrain de la réparation. C'est une proposition, vous faites exactement comme vous voulez. Et si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me poser des questions dans les rooms de service après-vente sur Clubhouse. Je serai ravie de rediscuter avec vous. Donc, en fonction de leur maturité, en fonction de leur connaissance des émotions, on va pouvoir les aider à prendre conscience de leurs propres ressentis avant même qu'ils puissent se décentrer pour comprendre ce qui s'est passé pour l'autre. Il est difficile pour un enfant de s'imaginer à la place d'une petite fille qui a mal ou d'une petite fille qui pleure si lui-même, il n'est pas pris en charge quand il a mal et quand il pleure. L'empathie, ça se comprend quand nous-mêmes, on arrive à être empathique avec nous ou quand on ressent l'empathie de quelqu'un envers nous. Sinon, il est bien difficile d'être empathique pour quelqu'un d'autre. On pourrait le faire par habitude parce qu'on lui a dit bonjour, sois poli, fais ceci, fais cela. Mais il n'aura pas le sens du comportement. Il ne verra pas en quoi ça peut l'aider de dire bonjour, d'être poli, de faire un bisou. Parce que lui-même, il aimerait ressentir à quel point ça fait plaisir quand on lui dit bonjour, quand on lui dit merci ou quand on lui fait un bisou. Pour se décentrer, il faut d'abord l'avoir vécu nous-mêmes. Et parfois, on demande à des enfants très jeunes de comprendre tout ça alors qu'eux-mêmes n'ont pas vérifié à quel point c'était bénéfique dans leur vie. À quel point le ressenti était possible pour eux. Quand on est poli avec eux, c'est bien plus facile après qu'ils soient polis avec les autres. Donc, on en revient à la puissance du modèle, on en revient aux neurones miroirs dont je vous parle régulièrement. Tout ça, c'est possible quand on travaille en amont et quand on incarne au maximum ce qu'on voudrait que nos enfants effectuent en étant nous-mêmes dans ces dispositions-là, d'expliquer, de prendre le temps, de se mettre à sa hauteur, de chercher non pas un coupable, mais voir ce qui s'est passé dans l'enchaînement des causes et des conséquences, et de poser des mots sur ce qu'on voit factuellement en disant « ton genou saigne, est-ce que tu as mal, est-ce que je peux t'aider ?» de poser des propositions en laissant ça comme un éventail de stratégies dans lequel il va choisir ce qui lui va le mieux. Et c'est ce qu'il fera ensuite plus tard. Dans les grosses bêtises et punitions, on a fait un petit brainstorm à la maison. Une fois, Livna, ma grande, avait décidé qu'ouvrir la porte de la véranda avec un bâton était une bonne idée. Donc, elle a mis un bâton dans la porte de la véranda, puis elle a laissé coincer le bâton et on n'a pas pu ouvrir la porte de la véranda. Donc, je me suis mis dans une colère noire, j'ai hurlé en disant « mais c'est pas possible, à quel moment t'as cru qu'on était dans un dessin animé pour mettre un bâton ? Un bâton, c'est pas une clé ?» Et là, j'ai vu que c'était ma cheminée, en fait, le problème. Elle était déjà toute dégoûtée de ne pas avoir pu rentrer, de ne pas avoir pu s'asseoir, de ne pas avoir pu prendre un livre. Elle était déjà punie par les conséquences réelles de son action. Elle était déjà punie par la frustration d'avoir, en quelque sorte, échoué, parce qu'elle sentait bien qu'elle avait fait une bêtise. Et moi, ma cheminée est partie en vrille. Parce qu'à ce moment-là, j'avais le bébé dans les bras, parce qu'à ce moment-là, je voulais rentrer, à ce moment-là, il allait faire nuit, à ce moment-là, j'avais pas de serrurier sous la main, à ce moment-là, je connaissais pas les voisins autour, etc. Les conséquences, elles étaient uniquement sur ma cheminée à moi. Et j'aurais voulu lui coller tout ça sur le dos, en lui disant « mais t'es nul, c'est de ta faute, quel idiote, enfin, à ton âge, on réfléchit plus ». Et là, je vois que c'est l'étanchéité de ma cheminée qui aurait pu m'entraîner vers une violence, vers un débordement, vers un hurlement, alors que les faits, c'est il y a un bâton dans la serrure. Nous sommes embêtés pour entrer, comment allons-nous faire? Et ensuite, on verra de réfléchir à quelle autre solution tu aurais pu avoir pour rentrer dans cette maison alors que tu n'avais pas la clé. Mais vous voyez, dérouler le processus, ça veut dire, à un moment donné, mettre sur pause dans notre propre cheminée, avant d'en coller une à notre enfant. Donc, bêtise peut être déclencheur pour nous. Punition n'est pas une manière de résoudre notre flamme et est rarement une manière de résoudre la flamme de l'enfant non plus. C'est l'analyse de leur éventail de stratégies à ce point-là, l'analyse de leur flamme d'émotion à ce moment-là et l'analyse surtout de leur arc-en-ciel de besoin, c'est-à-dire pourquoi tu as eu l'idée que c'était vraiment la meilleure chose à faire. Est-ce que vraiment dans ton intention, tu as trouvé que c'était la bonne solution? Est-ce que le fait d'avoir couru et d'avoir renversé tout ça, bah, y aurait peut-être d'autres méthodes la prochaine fois que tu es content de rentrer? Comment faire autrement la prochaine fois pour éviter que ça se reproduise? Et dans cette notion-là, on va quand même partir sur l'idée que les expériences, hein, comme je vous disais sur les caprices, vont former sa base de données, vont mettre à jour sa base de données. Donc chaque petite bêtise, chaque petite erreur de parcours, chaque petit couac, chaque petite conséquence malencontreuse dans son choix sur son éventail de stratégies vont être une petite perle sur son collier d'expérience. Et on pourra lui rappeler de temps en temps en disant « Ah bah oui, hein, c'est comme la fois où tu avais fait ça, tu te rappelles, peut-être que tu aurais pu faire autrement et d'ailleurs depuis tu as fait autrement. » Donc lui montrer qu'on se met à jour nous-mêmes, nous aussi on a fait des erreurs, nous aussi on a fait des bêtises, nous aussi on a été parfois punis même pour des choses très administratives. Si on a oublié de payer une facture, bah, on a un malus, on a une taxe, on a une indemnité, on a une amende. Nous aussi dans la vraie vie, on a ce système-là de réparation, de compensation, de parfois réconciliation suivant les domaines. C'est un système qui est extérieur à nous. Et dans la famille, on a le choix de le faire en mode super cop, en mode agressif. On a le choix de dire, bon, on s'assoit, on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut faire autrement. C'est à nous de mettre le curseur dans ce qu'on veut ressentir comme lien avec nos enfants. Parce que si on cherche des bêtises, des erreurs et des idées pour leur crier dessus et pour les taper, on pourra en trouver toute la journée. Si on cherche des points négatifs dans une journée, on va en trouver plein. Si on arrive à reformuler qu'à ce moment-là, il pensait que c'était le bon geste, la bonne action, la bonne activité, mais que sa maturité affective, intellectuelle, cognitive, émotionnelle n'était pas au top, on regardera ça avec beaucoup plus de douceur, de patience, et on pourra reformuler qu'il est sur un terrain d'apprentissage, qu'il fait de son mieux, que c'est maladroit, qu'il n'est pas encore au point, comme dans l'épisode 37, qu'il est encore en cours d'apprentissage. Donc un petit bénéfice du doute sur son intention, un petit peu de respiration avant de s'énerver complètement et de poser des actes qui pourraient être dommageables à la relation, d'en coller une, de hurler, de se mettre en vrac, parce que nous, notre cheminée de parents ou d'adultes, est en vrac. Donc de remettre un peu d'étanchéité entre les deux cheminées, c'est le programme hein, que je vous propose en ligne le mois prochain. Donc n'hésitez pas à rester au fait sur les réseaux de l'ouverture des places pour le parcours Emotizen qui aura lieu du 10 mars au 10 juillet. Donc embarquez avec nous vers cette compréhension de la cheminée des émotions, du lien avec l'arc-en-ciel des besoins et du lien avec les actions qu'on pose au quotidien pour accueillir les émotions de l'enfant, pour accueillir nos émotions et surtout éviter que le moindre acte de notre enfant nous mette dans une colère monstre et nous donne envie de leur hurler dessus, de les taper ou de nous détester en mode culpabilité extrême parce que ces flammes-là se répondent l'une l'autre avec comme déclencheur soi-disant les actes de nos enfants. Mais on verra ensemble que c'est surtout les braises qu'on a dans notre cheminée qui provoquent ces flammes-là et que l'action de l'enfant n'est qu'un miroir de ces braises qu'on a déjà en nous. Donc vous avez un petit peu le détail du programme qu'on va faire ensemble. C'est un détail en ligne, c'est un détail d'accompagnement, c'est un détail qu'on va vivre à la fois en live, à la fois en module filmé, à la fois en accompagnement individuel, il y aura aussi un accompagnement sur votre couple de parents. Donc j'ai hâte de travailler tout ça avec vous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé pour que je voie avec vous si je vous réserve votre place. Pour en revenir à notre sujet du jour, Donc, ce bâton dans la porte, l'idée de base qui a donné un résultat malencontreux, ça a déclenché une flamme dans ma cheminée. Vous-même, je pense que vous avez plein de souvenirs de bêtises que vous avez faites. Hein. C'est le moment confession, là. Repensez à votre plus grosse bêtise. Essayez de retrouver l'intention que vous aviez. À mon avis, l'intention n'avait rien à voir avec la conséquence de cet acte. L'intention était sans doute complètement légitime et malheureusement, le résultat n'a pas donné ce que vous pensiez. Et malheureusement, le résultat a peut-être engagé un acte de votre prof, votre parent, votre responsable, votre patron, qui a eu des conséquences sur votre estime de vous, sur peut-être une répression professionnelle, peut-être une suspension d'activité, peut-être une rupture amoureuse. Nos actes ont sans cesse des conséquences, mais quelque part, quand on en reprend l'utilisation initiale, pourquoi on avait posé cet acte? Est-ce qu'on était conscient que cet acte aurait pu déraper à ce point? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Peut-être, peut-être pas, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais de creuser en quoi on n'avait pas imaginé que c'était une telle bêtise et que maintenant on voit les conséquences de nos actes et qu'on puisse comprendre que les autres, nos parents à l'époque ou nos encadrants à l'époque, aient pu penser que c'était une bêtise, mais en vrai, est-ce que nous, on ne serait pas en train de requalifier nos bêtises en expérience aussi? Donc de la même manière que je vous invite à le faire pour les enfants et les élèves autour de vous, regardez si vous, vos plus grosses bêtises, vous les comprenez différemment maintenant. Et que peut-être elles vous donnent un éclairage différent sur la manière d'appréhender la prochaine bêtise, la prochaine bêtise de votre enfant ou la prochaine grosse bêtise de votre élève et de voir à quel moment ça asticote votre propre cheminée des émotions et que le déclencheur est un peu extérieur à tout ça. Voilà, je suis partie encore un peu loin, mais j'avais vraiment envie d'aller un peu plus loin sur cette notion de bêtise et qui va au-delà des caprices. Cette notion qu'on a vraiment de tout savoir par rapport à l'enfant, d'être celui qui décide, celui qui contrôle et tout, c'est une position vraiment verticale, c'est une position dont je vous parle depuis l'épisode 2 du podcast et dans notre manière de formuler les règles de vie, hein, dans l'épisode 22, dans notre manière de le laisser expérimenter vraiment au maximum, dans l'épisode 23, aussi dans l'épisode où il apprend hein, de la vie, dans l'épisode 43, vous allez voir que notre façon de parler aux enfants, notre façon de parler aux élèves met en place un lien de confiance, met en place un tequil de relation qui est bien plus important que le résultat en fait de certains de leurs actes. Si on voit l'erreur comme une opportunité d'apprendre, de dépasser son potentiel, d'avancer et de se dire « bon bah là c'était pas terrible comme décision mais la prochaine fois je ferai autrement », et bien voilà, on est en spirale, il y a des moments où on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et on l'a tous vécu, je crois, dans notre vie. Si on retrace un peu nos expériences, ça n'a sûrement pas été en ligne droite, ni pour vous, ni pour moi, ni dans votre domaine pro, ni perso, ni relationnel. On est tombé dans des trous, et on s'est relevé, et on est retombé dans des trous, et on s'est relevé. L'important, ce n'est pas d'avoir été puni à ces moments-là. L'important, c'est d'avoir compris à ces moments-là pourquoi on avait posé cette action. Est-ce qu'on aurait pu faire d'autres actions ou pas? Est-ce que la prochaine fois, on fera d'autres actions ou pas? Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je pars hein, vraiment dans cette notion que plus on le fait avec nos enfants jeunes, et plus ils vont garder ça pour plus tard, et qu'en fait, on incarne ce qu'on veut voir chez eux, et que de la même manière qu'on peut se demander s'il avait eu d'autres solutions au lieu de faire sa bêtise, parfois on est un peu dur aussi avec nous-mêmes en nous disant « t'aurais peut-être pu faire autrement toi aussi avec tes projets, tes décisions, tes pertes de temps, tes actions ». Donc soyons aussi tolérants avec nous-mêmes, qu'on essaye de l'être avec nos enfants quand on installe cette éducation bienveillante ou positive ou quel que soit le terme que vous lui donnez dans votre intention de faire autrement. C'est un mot qui revient beaucoup dans les mamans que j'accompagne. Elles ont envie de faire autrement et je vous soutiens de tout mon cœur. Moi aussi, j'ai voulu faire autrement que j'avais appris et autrement que j'avais vécu. Néanmoins, on va trébucher, on va progresser, mais ce ne sera pas linéaire. Donc on fait de notre mieux à chaque instant. Et oui, on a eu des actes répréhensibles. Et oui, on a crié sur nos enfants. Et oui, on a crié sur nos élèves, comme tous les parents du monde, comme tous les enseignants du monde. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça ne veut pas dire qu'on est à blâmer, ça ne veut pas dire qu'on est à punir, hein, sauf si ça tombe sous le coup de la loi. Mais réellement, on peut, maintenant qu'on sait ça, chercher les outils, les accompagnements, les personnes référentes qui vont nous aider à faire autrement. Et si vous voulez que je sois cette personne, je peux le faire pour vous. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me poser des questions en privé si vous voulez plus d'éléments. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme. On se rejoint peut-être dans la bêta test qui commence dans 2 semaines. J'ai hâte de travailler avec vous. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, de vos enfants. Plein de tequila à vous. Au revoir.